Amen. Tellement besoin du Saint-Esprit. Tellement besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez comme ça besoin du Saint-Esprit, vous aussi, mais moi j'en ai besoin. Et ce qui est merveilleux, c'est que justement, le Saint-Esprit est là, justement. Le Saint-Esprit est en moi, justement. Le Saint-Esprit est en vous. Alors, gloire à Dieu. Et justement, on va parler du Saint-Esprit ce matin. Mais avant, je vous ai apporté un baobab. Alors, c'est pas que je voulais apporter un baobab, je voulais apporter un arbre. Je voulais apporter un olivier verdoyant, ou un chêne, ou un hêtre. Mais dans mon salon, j'avais seulement un baobab. Voilà la raison pourquoi vous avez ce baobab ici. Parce que la nature, la création nous enseigne les choses de Dieu, je vous apprends rien du tout. Cet arbre, imaginez un olivier verdoyant, imaginez un chêne, imaginez un hêtre, imaginez un grand arbre verdoyant et qui porte du fruit. Comment ça se fait? Parce qu'il est arrosé par la pluie. Il reçoit des pluies régulières. La terre est arrosée et il se nourrit. Il plonge ses racines, il élève ses branches et il porte du fruit. Et quand la pluie vient à manquer, il puise dans ses réserves. Mais si ça continue, il commence à souffrir. Il commence à souffrir de la soif. Et si ça continue encore, alors là, il commence gentiment à s'épuiser. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va plus porter de fruits pour essayer de survivre. Et si cette sécheresse, elle continue encore, ce sont ses feuilles qui vont tomber et ses branches qui vont sécher jusqu'aux racines. Je n'avais pas d'arbre sec dans mon salon, mais j'avais un lierre sec. Il a manqué d'eau. Quand un arbre manque d'eau, c'est un arbre sec. Il ne sert à plus rien. Et avec le temps, il va tomber. Il va nourrir la terre, ça va faire de l'humus. Il va mourir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre marche chrétienne. C'est exactement pareil. Nous avons besoin de la pluie du Saint-Esprit pour être un arbre verdoyant, pour être en bonne santé, pour porter du fruit. Et cette pluie du Saint-Esprit, on n'en a pas besoin une fois par année. On n'en a pas besoin de temps en temps, on en a besoin tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être arrosé par le Saint-Esprit. Sinon, on devient un arbre sec. Le Saint-Esprit, c'est indispensable. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Et on ne peut pas se dire, est-ce que nous sommes une église charismatique ou bien pas? C'est un faux problème, c'est une fausse question. Parce qu'il y a un Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. On ne peut pas se dire, moi je prends que les deux tiers de Dieu. Alors, c'est un peu bizarre comme image parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte puis dire, ça c'est un tiers, ça c'est un tiers, ça c'est un tiers. Comprenez-moi bien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on ne peut pas prendre une partie de Dieu et laisser une autre de côté. Quand je me suis mariée, j'ai pas dit, OK, on va se marier, mais quand on a passé devant le maire, j'ai pas dit, OK, je prends son corps, je prends son âme, mais son esprit, son inspiration, non, sa créativité, non, ça va nous mener dans je sais pas quoi comme histoire, non, ça je prends pas. Je pouvais pas en laisser une partie, j'étais obligée de tout prendre. Amen. Mais amen. Vous comprenez? Dieu est un. On peut pas en prendre une partie. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit, même s'il fait des choses un peu particulières. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que je veux le parler en langue ou bien pas? Est-ce que je veux ces dons ou bien pas? Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Que dit la parole de Dieu? Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est la condition sine qua non. Et une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, il faut entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est un petit peu là notre problème. C'est là que le bât blesse. Souvent, on se fait baptiser du Saint-Esprit et les années passent et puis on l'a un petit peu oublié. On devient des arbres secs. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est un arbre verdoyant. Et il s'agit de Philippe. C'est pas l'apôtre Philippe. C'est pas l'un des 12, c'est l'un des 7. En fait, on va reprendre le même texte qu'on a pris il y a 2 semaines. Mais je reviens un petit peu en arrière. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. À un moment donné, toute l'église met tout en commun. Ananias et Saphira viennent amener quelque chose, mais eux, leur cœur n'est pas droit. Et suite à cela, il y a encore des autres problèmes. C'est que les hellénistes, donc les personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui font partie de l'église, mais qui sont de culture grecque, qu'ils soient juifs ou non, ils sont culture grecque, ils se rendent compte que leurs veuves, elles sont prétéritées, on les met un peu de côté pour le partage de tous ces biens qui ont été mis en commun. Alors ça commence à râler, et les apôtres disent, ok, ben puisque c'est comme ça, choisissez parmi vous 7 personnes pour faire ce partage, pour servir aux tables. C'est ça ce que ça veut dire, c'est partager toute cette mise en commun pour chacun. Comme ça, les apôtres pourront vaquer à la prière et à la prédication de la parole. Alors ils disent dans Actes 6, verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons dans cet emploi. » Ça a convenu à tout le monde, et ils ont choisi Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, celui dont on va parler, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Philippe n'est pas apôtre, c'est pas une élite, c'est pas quelqu'un de particulier, on sait même pas d'où il vient, on sait juste que son nom, c'est un nom grec, peut-être un helléniste, un grec, quelqu'un de culture grecque, quelqu'un qui s'est converti. Mais il a 2 choses à son actif. On rend de lui un bon témoignage. Il porte du fruit. Il est patient, miséricordieux. Il a de l'amour, de la paix, de la patience, de la bienveillance. Galates 5, 22. Il porte le fruit de l'Esprit. Et il est rempli d'Esprit Saint et de sagesse. On peut se poser la même question aujourd'hui. Est-ce qu'on rend de moi un bon témoignage? Est-ce qu'on m'aurait choisi? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je remplis ces critères? Philippe, il remplit ses critères. Il est envoyé par le Seigneur en Samarie, mais qu'est-ce qui se passe? Il est choisi pour ce service. Et juste après, Étienne se fait arrêter. Étienne, l'un des 7, se fait arrêter, il se fait lapider. Et ça, c'est tout le chapitre 7 du livre des Actes. Et une fois que Étienne s'est fait lapider, il y a une très grande persécution qui commence contre l'Église. Et tout le monde est dispersé. Et là, on est au début du chapitre 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, excepté les 12, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils n'allaient pas se planquer, ils continuaient d'évangéliser. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Le ministère de Philippe, il est tellement florissant, il a tellement de puissance, le Saint-Esprit est tellement présent en lui que ça commence à se savoir. Au point qu'un magicien du nom de Simon veut ces choses-là. Il se convertit, mais après il veut acheter le Saint-Esprit. Il n'a rien compris. Mais ça fait tellement de bruit, toutes ces conversions en Samarie, alors que les Samaritains et les Juifs, ils font pas très bon ménage, que les apôtres qui sont à Jérusalem, Pierre et Jean, ils vont en Samarie pour voir, pour constater ce qui se passe. Et là, ils rencontrent tous ces gens qui se sont convertis, ils ont été baptisés d'eau, et les apôtres se rendent compte qu'ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Alors ils leur imposent les mains, et tous reçoivent le Saint-Esprit. On peut vraiment se rendre compte dans ce texte que la présence de Dieu par son Saint-Esprit, elle est là presque à chaque phrase, à chaque instant. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Après avoir prié pour le baptême du Saint-Esprit, les apôtres retournent à Jérusalem. Et Philippe, lui, il continue son ministère en Samarie, il va de ville en ville. Et il continue, miracle sur miracle, évangélisation, conversion, baptême, etc. Jusqu'à un moment où, verset 26, chapitre 8, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Quel ordre bizarre. Imaginez, Philippe, il porte du fruit, il rend témoignage à Jésus-Christ, il évangélise les foules, et tout à coup, Dieu lui dit, pars de là, va dans un endroit qui est désert. Philippe, il répond à la prophétie et au commandement de Jésus, aller évangéliser toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ce qu'il est en train de faire, de partir de la Judée et d'aller en Samarie. C'est comme ça que ça commence. Il est les prémices de cette prophétie et de ce commandement d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu lui dit, va là où il n'y a personne. Vous auriez fait quoi, vous? Imaginez une entreprise au local, une entreprise d'horlogerie. Vous avez un cadre, un chef de département qui se fait repérer par son patron. Parce que c'est quelqu'un qui suit la formation continue, il est toujours à jour, il s'intéresse, il est instruit, et puis il travaille bien, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est honnête. Et à un moment donné, son patron, il lui dit, écoute, je t'envoie dans la région zurichoise, va ouvrir des succursales. Et le gars, il part. Et il ouvre des succursales. Et le commerce, il devient florissant, il peut ouvrir succursale après succursale. Et à un moment donné, téléphone sonne. La personne qui téléphone, c'est numéro inconnu. Il décroche, il reconnaît la voix de son patron qui lui dit « Écoute, range ton bureau, plie tes affaires et puis retourne dans le canton de Neuchâtel, mais pas au local, pas tout à fait. Tu vas au fin fond du Val-de-Rue vers Fenin-Villarsault et puis tu prends le chemin qui monte sur Chaumont, là dans la forêt. » C'est complètement farfelu, non? Eh bien, l'ordre que Philippe a reçu était complètement farfelu. Mais Philippe se leva et partit. Philippe, il obéit. Qu'est-ce qui fait que Philippe obéit? Je ne sais pas si quelque chose vous a frappé au début de ce texte. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Vous avez remarqué, c'est un ange du Seigneur. Et comment est-ce qu'il réagit, Philippe? Bon, c'est seulement qu'il obéit. Il n'y a pas marqué, il tomba sur sa face, il trembla, il vit une énorme lumière. On n'en sait rien, on ne sait pas comment est-ce qu'il était cet ange, on ne sait pas sous quelle forme il était. Mais Philippe a reconnu que c'était Dieu. L'action divine, elle est là. Il l'a reconnu parce qu'il le connaît. Croyez-moi, ce gars qui est parti dans la région zurichoise pour planter ses nouvelles entreprises, si son patron avait été un petit jeune, sans expérience, dans lequel on ne sait pas trop où il va, où on n'est pas sûr qu'il soit fiable, qu'on puisse lui faire confiance, il serait resté à Zurich, le gars. Mais il connaissait son patron. Il savait que c'était un patron avec de l'expérience. Quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui réussit dans ses entreprises, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a jamais failli, et il reconnaît sa voix. Alors, il lui dit, moi j'y vais. Moi, je ne sais pas pourquoi je dois aller là, mais je sais que lui, il a un plan. Et pourquoi est-ce qu'il connaît sa voix? Eh bien, parce qu'il passe du temps avec lui, parce qu'il le côtoie régulièrement. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye de nous dire. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même ? » Nous savons tous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment est-ce qu'on vit en tant que temple du Saint-Esprit ? Paul, dans Éphésiens 2, 20, il nous dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Ça veut dire que depuis notre nouvelle naissance, cet esprit, il vit en nous. Notre cœur a été changé, transformé. Nous avons l'esprit en nous. Et par notre baptême du Saint-Esprit, nous sommes revêtus. Nous avons reçu une puissance supplémentaire qui nous permet d'exercer les dons, d'être qualifiés pour l'appel que Dieu dépose sur chacune des vies. Mais ça veut dire quoi au quotidien? Pour connaître la voix de Dieu, pour reconnaître quand c'est son ange, pour reconnaître quand c'est sa voix. Ça veut dire qu'il faut avoir une relation avec lui. Si on n'a pas de relation, on ne peut plus le connaître, on peut plus savoir ce qu'il veut, ce qu'il fait, on ne peut plus être conduit par l'Esprit. Lisez Romains 8, lisez les Galates. Il est question du Saint-Esprit tout le temps. Nous devons être conduits du Saint-Esprit. Deux personnes qui ne se côtoient jamais ne peuvent pas se connaître. Tu peux prendre le bus tous les jours, matin et soir. Tu vas au boulot dans le bus, tu reviens avec le même bus, le même horaire, toute l'année, pendant des années. Et c'est les mêmes personnes qui vont au même endroit, qui prennent le même bus. Mais si vous ne parlez pas ensemble, le jour où vous entendez sa voix, vous ne savez pas que c'est lui, mais vous le voyez tous les jours. Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Est-ce que vous faites chambre séparée? Si, quand on est marié, on se côtoie, mais on ne se cause pas. On vit sous le même toit, mais on ne se cause jamais. Est-ce que c'est une relation? Mes amis, le Saint-Esprit est une personne. Et si nous n'avons pas une relation avec lui, si nous ne lui parlons pas, ça ne va pas. Nous devons établir un dialogue jour et nuit avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il attend. Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. « L'Esprit, dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. On va plus parler de cet Éthiopien, on en a parlé il y a 2 semaines. Mais regardez, c'est l'Esprit qui est en train de donner un plan plus précis à Philippe. D'abord, il lui a dit « Va là-bas où c'est désert. » Ça lui a pris en tout cas 20 heures de marche. « Va par là-bas. » C'est complètement vaste. Mais à un moment donné, voilà, ça se resserre. Et le Saint-Esprit lui dit « Tu vois, là, il y a un char qui arrive. C'est là que je t'envoie. Va vers cet Éthiopien. » Et quand Philippe s'approche, il entend. Il est en train de lire le prophète Ésaïe. Alors il s'approche, il obéit à la voix du Saint-Esprit, il comprend, c'est maintenant, à toi de jouer. Et rempli du Saint-Esprit, il connaît la parole, il connaît son Dieu, il s'approche de l'Éthiopien. Il s'approche de lui et lui pose une question. Comprends-tu ce que tu lis? Ça a l'air complètement anodin comme question. Mais en fait, il y a 2 choses dans cette question qu'on peut pas forcément saisir comme ça à une première lecture. D'une part, dans cette question, comme elle est écrite en grec, il y a un petit mot au début qui fait que c'est une question qui implique une réponse négative. Alors ça veut dire qu'en fait, Philippe, il lui tend la perche pour que ce soit pas difficile pour l'eunuque de dire, en fait, non, je ne comprends pas, aide-moi. Mais il y a autre chose. Il fait un jeu de mots. Quand il dit, comprends-tu ce que tu lis? Si on veut traduire de façon littérale, il est écrit « Connais-tu ce que tu reconnais ?» C'est le verbe qui est utilisé, ça, il est beaucoup plus utilisé pour connaître que pour comprendre. Et en fait, le verbe « lire », c'est le même verbe, mais on a juste rajouté une particule avant qui veut dire « de nouveau », comme anabaptiste, « de nouveau baptisé »,« rebaptisé ». Donc, en fait, « reconnaître »,« connaître mieux », »,« connaître encore », ça a donné le verbe « lire » en grec. Alors, en fait, c'est comme s'il dit « connais-tu ce que tu lis ?» Mais en fait, « connais-tu ce que tu reconnais ?» Autrement dit, ce que ton intelligence, ce que tes yeux reconnaissent quand tu lis, tu reconnais les mots, tu comprends ce que ça veut dire en grec, ou pour nous en français. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu connais ces choses ? Connais-tu cette parole que tu lis ? Connais-tu le Dieu qui est dans cette parole ? Connais-tu son message ? Est-ce qu'il te transforme ? Est-ce qu'il est vivant en toi ? Est-ce qu'il fait bouillonner tes entrailles? Est-ce qu'il t'arrache la louange de ta bouche, de ton cœur? Connais-tu ce que tu lis? Connais-tu ce Dieu merveilleux? Et l'eunuque, qu'est-ce qu'il répond? Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Tu peux lire ta parole pendant des années sans la comprendre, sans la saisir. Il y a besoin d'un guide. Et là, Philippe, il fait office d'intermédiaire. Il y a une partie qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas Philippe qui peut faire que l'eunuque comprenne. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais Philippe, il peut l'orienter, il peut l'amener jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre. C'est une collaboration entre le Saint-Esprit et Philippe. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et depuis ce passage-là, d'Ésaïe, Philippe commence à expliquer la parole à l'eunuque. Il part de l'endroit où en est l'eunuque pour lui expliquer toute la parole, tout le message de l'évangile. Et c'est en ce sens-là qu'il le guide. Mais l'action, elle est faite par le Saint-Esprit. Pour que l'eunuque comprenne, il faut le Saint-Esprit, il faut une révélation. Et c'est là qu'il faut comprendre l'importance de la parole. La parole, elle est liée au Saint-Esprit. Il n'y a pas de parole sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Elle est tellement importante que si vous reprenez ce récit de Philippe et de l'eunuque éthiopien, regardez où se trouve ce passage d'Ésaïe qui est l'une des plus grandes prophéties sur le sacrifice de Jésus. Si vous prenez ce passage, cette histoire, ce passage de la parole, cette citation, elle est en plein milieu. Comme pour dire, mais sans la parole, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Sans la parole, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Et pourquoi? Parce que la parole, elle est inspirée par le Saint-Esprit. 2 Timothée 3:16. Toute écriture, donc celle-ci, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que c'est Dieu le Père qui allait écrire la parole? Non. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a écrit la parole? Non. Jésus, il est la parole incarnée. Mais une parole inspirée, insufflée, soufflée par le souffle, par le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré. 2 Pierre 1:21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tous ceux qui ont écrit là-dedans depuis le début, c'est parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est omniprésent. Et ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose pour la comprendre, cette parole. Qui est-ce qui peut le mieux comprendre la parole de Dieu? Qui est-ce qui est la mieux qualifiée pour comprendre et interpréter la parole de Dieu? C'est le concepteur. C'est celui qui a inspiré la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas faux de dire Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est d'interpréter la parole. Et vu que c'est lui qui l'a inspirée, c'est lui qui est le mieux qualifié. C'est lui qui donne un esprit de révélation qui le fait connaître. 1 Corinthiens 2:9-12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne une révélation, qui fait que cette parole, on la comprend et qu'on la reçoit à l'intérieur. Et cette parole, elle est l'Esprit. Jésus est la parole incarnée, mais cette parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ça va loin, hein? Alors, sur quoi est-ce que je m'appuie? Je ne vais pas dire ça de mon propre chef, n'ayez pas peur, je ne me risquerai pas à une chose pareille. Mais Éphésiens, vous connaissez Éphésiens, Éphésiens 6, les armes du chrétien, l'armure du chrétien, vous connaissez, l'épée de l'esprit, vous connaissez. Éphésiens 6, 17 et 18, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cette parole, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit du Père. Dieu est un. Il est indissociable. Mais ça veut dire que quand on médite cette parole, si on la reconnaît, ça ne sert à rien. Mais si on demande et qu'on invite le Saint-Esprit à nous en donner la révélation, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne, pour que j'en comprenne les choses de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui sondes les profondeurs de Dieu, alors donne-moi cette révélation pour que je les reçoive, pour que je les comprenne. Et plus on aura cette relation avec le Saint-Esprit, de lui demander, de le faire participant de nos prières, de le supplier, mais arrose-moi, que je sois un baobab, un olivier verdoyant, j'ai besoin de ta pluie, j'ai besoin que cette parole, elle vienne à l'intérieur de moi, j'ai besoin que mon âme soit pénétrée de cette parole, j'ai besoin que mon intelligence soit restaurée. Viens, Saint-Esprit, parce que par moi-même, je reste au niveau cérébral, mais j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta direction. Lorsque vous priez, est-ce que vos prières sont exaucées? Est-ce que c'est des mots que vous alignez pour que vous les dites au Seigneur? Ou est-ce que vous vous sentez inspiré par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous conduit dans une direction? Plus vous utiliserez cet outil, cette épée de l'esprit, plus vous serez efficace, pertinent. Dernièrement, il y a quelqu'un dans l'église, je ne sais pas si cette personne, enfin je vais rien dire de spécial, si voilà, peut-être que, bah vous savez, elle n'est pas dans cette salle, elle est peut-être sur Zoom, je ne sais pas si elle m'entend. Mais cette personne était tellement réjouie. Elle m'a dit, tu sais, là où j'habite, chaque fois qu'un hélicoptère vient, la réga, pour aller se poser à l'hôpital, je l'entends. Je l'entends tout le temps. Il y en a tout plein. Il y en a régulièrement. Et je prie comme ça. Mais un jour, j'ai entendu l'hélico et j'ai dû arrêter tout ce que je faisais. J'ai été poussée à prier. Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais un fardeau. Ça me chargeait. Et j'ai commencé à prier. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais j'ai prié. Deux ou trois jours après, j'ai appris que quelqu'un dans notre entourage a eu un très grave accident et il a été héliporté à Berne. Et au bout de deux ou trois jours, il s'en est remis, les médecins n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Restauration totale, il aurait pu être paraplégique, tétraplégique, le gars. Et quand elle a entendu cette histoire, elle a dit, mais attends, c'était où, c'était quand, à quelle heure? C'était cet hélico. Elle m'a dit, mais je suis sensible! Je dis, mais oui, c'est ça le Saint-Esprit. Ne vous attendez pas à ce que le Saint-Esprit vous parle de manière audible, parce que vous allez peut-être attendre longtemps. Des fois, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie où je pourrais presque dire que ce que j'ai entendu, c'était audible. J'ai entendu une phrase. J'ai mis du temps à la comprendre. Maintenant, c'est bon. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Par contre, d'être conduite par le Saint-Esprit, d'être poussée à prier ou de converser avec le Saint-Esprit et de comprendre que c'est lui, ça m'est arrivé souvent. Mais il faut pas l'attendre d'une manière ou d'une autre, d'une manière précise, parce que justement, le Saint-Esprit il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Mais conversez avec lui et entraînez-vous en vous disant « Ah, mais j'ai prié pour ça. Ah, mais ça, je l'avais demandé. Essayez de vous entraîner à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Je retourne à notre texte dans Acte 8. Philippe explique la parole à l'eunuque. Et à un moment donné, comme ils continuaient leur chemin, verset 36, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et ils arrêtent le char, ils descendent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptise l'eunuque. Là encore, on est dans le surnaturel. Ils sont dans un endroit désert, il n'y a pas d'eau. Mais tout à coup, c'est quoi? Un réservoir? Une flaque? Un oasis? On ne sait pas ce que c'est. Mais tout à coup, il y a de l'eau providentielle. Et c'est à ce moment-là que l'eunuque a compris. Le Saint-Esprit a fait son œuvre dans l'eunuque. Tout à coup, il se dit pas, « Oui, mais attends, je suis eunuque. Ah, mais attends, je suis pas juif. Ah, mais attends, j'ai une infirmité dans mon corps. » Toutes ces choses qui, avec l'ancienne alliance, sous la loi, n'auraient pas pu lui permettre de s'approcher du Seigneur, tout ça, ça a passé. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit a rafraîchi son âme et il lui a donné cette révélation. Alors il dit, mais qu'est-ce qui empêche? Il aurait pu avoir cette compréhension après avoir dépassé le point d'eau. Il ne devait pas y en avoir beaucoup. Mais non, juste avant, c'est l'activité divine, c'est l'activité surnaturelle. Et ça, c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il se fait baptiser. Et quand ils ressortent de l'eau, l'eunuque est tout joyeux. Mais il y a encore quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Ashdod, plus au nord, au bord de la mer, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par où il passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment l'Esprit a pu prendre Philippe et hop, téléporter à Ashdod? On n'aime pas répondre à ce genre de questions. Est-ce que c'est juste pour nous dire que l'activité du Saint-Esprit était très présente et puis ensuite ils se sont séparés, l'eunuque très joyeux parce que sa vie a été transformée et qu'il va aller apporter l'évangile dans son pays, en Éthiopie, et Philippe y continue sa route, toujours rempli du Saint-Esprit? Ou est-ce que vraiment l'Esprit a pris Philippe et il l'a vraiment transporté en chair et en os, paf, jusqu'à Ashdod? On le saura quand on sera au ciel, mais moi j'aimerais vous lire quelque chose. Moi, je crois que c'est possible. Est-ce que ça vous rappelle une ou deux histoires, tout ça? Jésus? Ouais, dans l'Ancien Testament, quelqu'un a été enlevé. Eh bien, cette histoire, elle a énormément de parallèles avec Jésus, entre autres sur le chemin d'Emmaüs, quand il va rencontrer deux disciples qui ne comprennent pas tout ce qui s'est passé. Et il arrive et il leur explique la parole. Il part depuis l'Ancien Testament et il explique tout ce qui le concernait. Et tout à coup, leur compréhension vient. Et au moment où la compréhension vient, et ça c'est au moment où ils partagent la Sainte Cène avec eux, eh bien, pauvre Jésus, il disparaît. C'est un peu la même chose. C'est vraiment, il y a énormément de parallèles avec cette histoire. Il y a d'autres parallèles, c'est avec la vie d'Élie. Dans l'Ancien Testament, il y a Élie. Élie, tout à coup, il est parti, il était avec Élisée, tout à coup, il est monté sur un char de feu, il est parti et Élisée ne le vit plus. Mais Élie, il est parti vers Dieu. Philippe, en chair et en os, il a été téléporté à Ashdod en chair et en os, pas encore vers Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un exemple comme ça dans l'Ancien Testament? Oui. Et c'est toujours Élie. Je vous lis dans 1 Roi 18. C'est l'histoire du roi Akab, un roi terrible qui en voulait à Élie. Il voulait tuer Élie et surtout il voulait tuer toute personne qui avait un contact avec Élie. Et à un moment donné, c'est Dieu qui dit à Élie, va rencontrer Akab. Et quand Élie va sur sa route, il rencontre Abdias. Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ? » Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, à Achab, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que c'est connu l'histoire. On sait bien comment ça se fait. Tous ceux qui t'ont vu, ils ont dit, Élie, il est là. Et puis après, l'esprit, il te prend, puis pof, il te met ailleurs, puis nous, on y va. Et puis du coup, t'es pas là, et puis on se fait tuer. Et moi je marche pas avec ça. Hein. Moi, je marche pas avec ça, je vais pas voir Achab. C'était connu, l'histoire. Alors, ça, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu est toujours le même? Amen. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à ça? Dieu est toujours le même. S'il a pu téléporter un être humain dans l'Ancien Testament, il a fait bien d'autres choses. Est-ce qu'il n'est pas capable aujourd'hui de le faire aussi? Est-ce qu'il n'a pas pu téléporter Philippe? Qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, que ce soit un récit littéraire ou que ce soit vrai, est-ce qu'il n'est pas capable de le faire? Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire avec l'un d'entre nous? Il ne va pas le faire juste pour le plaisir. Il y a des choses comme ça qui se passent chez les chrétiens persécutés. Il y a des situations qui se passent comme ça, où il y a des actions qui sont surnaturelles. Ou quand Dieu veut toucher son peuple, on a affaire au surnaturel. Chaque fois que tu pries, que tu chasses des démons et que les démons sortent, tu es dans le domaine du surnaturel. Chaque fois que tu pries et que tes prières sont exaucées, tu es dans le domaine du surnaturel. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est Dieu qui agit. Mais la puissance de Dieu est manifestée par son Saint-Esprit. Jésus nous a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais on sait que Jésus, il est au ciel. Il a dit, « Je serai avec vous. Je ne vous laisse pas orphelins. » Jésus, il est au ciel et de là, il intercède. De là, il a un sceptre de fer. De là, il est roi des rois. De là, il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Mais il est avec nous tous les jours. Comment? Parce que son Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous et il est sur nous. Alors, arbre verdoyant, parce qu'on a une relation avec le Saint-Esprit, ou arbre sec. Pour terminer, moi, je crois que Philippe, pour pouvoir vivre cette relation avec le Saint-Esprit, ça a commencé par une chose, c'est la foi. Philippe, il a cru au Saint-Esprit. Il n'a pas juste vécu un bon moment quand il a été revêtu, puis quand il s'est mis à parler en langue. Il n'a pas juste exercé les dons, mais il a cru que cet esprit, il est vraiment en moi. Il est vraiment là jour et nuit, je peux lui parler tout le temps. Il me parle. Et si moi, je commence à vraiment me faire violence, à m'entraîner, à me dire, il est avec moi, et je l'apprivoise et je me laisse apprivoiser par lui, je crois sa parole. Si Jésus a dit qu'il nous l'envoyait, il est là. Il a mis sa foi en action. Et c'est ça qui a déjà été déterminant. Et ensuite, il a décidé d'obéir, même quand il ne comprend pas. Il a établi une relation avec lui. Tous les jours, pas de façon sporadique. Il ne s'est pas contenté d'être baptisé. J'ai presque envie de dire qu'il a conservé son baptême. Il a actualisé son baptême. Il a entretenu son baptême. Il a nourri son baptême du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai repris ce même texte qu'on a pris il y a 2 semaines? Un texte, j'ai pas tout dit, un texte biblique, on peut le reprendre et le reprendre encore, il y a toujours tellement, tellement de choses à dire. Mais parce que la présence du Saint-Esprit, on peut pas passer à côté. C'est important qu'on le comprenne. On en a tellement entendu parler. On a tellement entendu parler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ce soit une exhortation pour l'Église. J'aimerais qu'on se mette chacun au défi de comprendre ce que c'est que d'être le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu, et de comprendre pourquoi, quel est notre mandat et comment vivre cette réalité dans le concret. Que ce soit une exhortation pour que notre vie de prière, fondée sur la parole qui est l'Esprit de Dieu, qui est une épée, qui est la puissance, elle nourrisse notre prière, que cette parole nourrisse notre prière, que nous soyons exercés, que notre prière, elle commence à être beaucoup plus fructueuse, beaucoup plus féconde que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit en Église. Qu'on ait tous cette conscience, un déclic, qui est un rafraîchissement du Saint-Esprit dans l'Église. C'est tellement nécessaire. Ça l'a toujours été. Mais on voit aussi dans les temps troublés qu'on est en train de vivre, il y a comme un tri qui est en train de se faire. Qui c'est qui croche, qui c'est qui lâche? Qui c'est qui a peur, qui c'est qui est confiant? Qui c'est qui arrive supporter l'adversité, qui c'est qui flanche? Qui c'est qui garde sa saveur, qui c'est qui la perd? C'est grave. On ne sait pas ce qui va se passer avec cette pandémie. Mais déjà maintenant, ce n'est pas marrant. Déjà maintenant, il y a une espèce de fracture sociale qui est en train de se faire. Il y a presque de l'instrumentalisation, même dans les familles. Il y a les pro-vaccins, les contre-vaccins, alors que la situation est tellement plus complexe que ça. C'est tellement réducteur de dire « je suis à gauche ou je suis à droite ». C'est tellement réducteur. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Fais les choses en fonction de ce qu'il te dit. Il ne va peut-être pas dire la même chose à tout le monde, parce que peut-être que pour toi, c'est important que tu te fasses vacciner, peut-être pour toi, c'est important que tu ne le fasses pas, mais ce qui est important, c'est que tu comprennes telle chose. Fais les choses avec la conviction que le Saint-Esprit te donne, mais aime ton frère et ta sœur, et n'entre pas dans des systèmes qui sont contre Dieu. Mais comment te positionner? Et quand l'étau se resserre, où sont tes motivations? Et comment est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Qu'est-ce que tu choisis? À la fin du mois, il y aura des votations importantes, autant au niveau du canton qu'au niveau fédéral. Comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que le Saint-Esprit te dit, écoute, fais ça. Vote ça, mais que quand tu parles avec ton entourage, que ton argumentation soit remplie d'Esprit Saint. Ne reste pas juste chez toi, mais parle. Parle avec sagesse, parle avec amour. Parle avec la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. On ne peut pas rester là où on en est. Il est question peut-être qu'on puisse être plus que 30 en Église sans passe sanitaire. C'est ce que le Conseil fédéral devait décider mercredi passé. Mais puisque la situation est stable, ils ont décidé d'attendre. Mais on se prépare à ça, ça pourrait arriver. Nous, on est déjà en train de se dire qu'avec le Conseil, on va préparer la salle d'en bas, au cas où on doit refouler du monde pour qu'il y ait un zoom en bas, pour que les gens qui viendraient ici... Au cas où on est trop, on espère que ça ne va pas arriver. On a besoin que les chrétiens soient debout et prient pour que le Saint-Esprit inspire nos autorités, pour qu'ils prennent la bonne décision. On a besoin que les chrétiens comprennent ce qui se passe. On ne veut pas de cluster dans l'Église. C'est important qu'on comprenne ces choses-là. Il y a des choses, ça nous barbe, mais il y a une raison de faire les choses. C'est important que le Saint-Esprit nous dise « Fais comme ça ou comme ça, pas maintenant, plus tard, oui, tout de suite, non, attends. » Dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos interactions, on a vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne nous rafraîchir, tous autant que nous sommes dans nos situations, dans nos familles, là où on travaille, à chaque instant. J'arrête parce que sinon on y sera encore demain matin. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Moi, j'ai tellement besoin du Saint-Esprit. Utilisez la parole pour lui demander son aide. Quand vous ne savez pas comment prier, prenez un psaume. Prenez le Notre Père et commencez à enrichir, parce que c'est une trame avec cette parole. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, là, j'ai vraiment besoin. Là, je suis un petit peu un arbre sec, là. J'ai vraiment besoin. Il y en a qui rêvent d'être un olivier Un baobab verdoyant, il y en a qui se disent, ça fait longtemps que je n'ai pas porté de fruits. J'aimerais bien que ça revienne, j'aimerais bien que cette sève, elle revienne. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit, je vous invite à vous lever. Moi, je suis debout. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois, nous sommes tous debout devant toi. Et même à la maison, mais levez-vous si vous êtes, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous êtes tous levés. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous lever, mettez la main sur le cœur, faites un geste au Seigneur pour lui dire, mais je suis debout, je suis debout. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur. Père, merci parce que ton regard est posé sur chaque personne qui est debout maintenant. Merci Jésus parce que tu nous as envoyé ton esprit qui est en train de visiter les cœurs. Et Saint-Esprit, merci parce que tu ne te refuses pas à quelqu'un qui te cherche. Le Père ne refuse pas le Saint-Esprit. Au contraire, ce que tu nous demandes, c'est de te chercher et de te chercher et de demander encore. Alors je te demande maintenant de visiter les cœurs. Je te demande la restauration par ton Saint-Esprit. La restauration, je te demande un renouveau, un rafraîchissement de ton Saint-Esprit. Je te demande que ceux qui n'ont encore pas reçu le baptême de ton Saint-Esprit soient baptisés, que ceux qui aimeraient parler en langue depuis tellement longtemps ou depuis peu de temps et qui n'ont encore pas reçu ce don de parler en langue, qu'ils le reçoivent. Je te demande que dans les jours qui viennent, les gens qui attendent ce baptême, qui attendent de parler en langue, le reçoivent, que dans les jours qui viennent, ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement de ton esprit le reçoivent. Je te demande un déversement de ta puissance, Saint-Esprit. Ouvre les écluses des cieux et déverse-toi sur les vies, sur les cœurs. Déverse-toi sur chaque intelligence. Je te demande de venir briser les forteresses. Brise les portes d'airain, brise les verrous de fer et déverse-toi, que ta rosée vienne, ta rosée. Seigneur, tu es comme l'huile sur la tête d'Aaron, sur la barbe qui descend sur les bords du vêtement. Tu es comme la rosée sur le mont Hermon. Viens avec ta rosée, avec ta pluie bienfaisante, déverse-toi sur chacun d'entre nous. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Dites au Seigneur, dites au Saint-Esprit que vous avez soif. Dites-lui que vous ne voulez plus être un arbre sec. Dites-lui que vous êtes comme une terre aride, desséchée, sans eau, mais que vous avez besoin de lui. Et recevez cette pluie, recevez cette rosée, recevez cette pluie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes arroser ma terre. J'ai besoin que ta sève se répande dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées. J'ai besoin que tu m'aides à instaurer cette relation avec toi. J'ai besoin que tu creuses mes oreilles pour que j'entende et que je reconnaisse ta voix. Donne-moi l'inspiration dont j'ai besoin dans mes prières, dans mes partages avec mon entourage. Donne-moi ta sagesse, Seigneur, toutes les fois où je suis maladroite, j'ai tellement besoin d'être remplie de ta sagesse. Remplis-moi encore. Viens, viens, Seigneur, viens restaurer l'Église. Restaure, rafraîchis, renouvelle l'Église. Que ton fleuve, Saint-Esprit, vienne, qu'on entre dans quelque chose de nouveau, qu'on entre dans cette vague de ton esprit. Donne-nous des nouvelles révélations de ta parole. On a tellement besoin de toi. On a faim et soif de toi. Sors-nous du désert. Du désert jailliront des fleuves d'eau vive, des courants d'eau. Saint-Esprit, viens et jaillis dans notre désert, à chacun d'entre nous. Tu connais nos déserts en particulier pour chacun. Mais merci parce que ta provision n'est pas épuisée. Et ce que tu désires, toi, tu soupires après une relation avec nous. Merci et gloire à toi. Merci, mon Dieu. Amen.